Alors, quelques mots d'introduction pour cette dernière session qui va porter sur le rôle structurant des collèges doctoraux. Donc je suis présidente de l'Université Lille 3. Catherine Maignan a parlé tout à l'heure de l'école doctorale SHS. Cette école doctorale est pluri-établissement. Elle est régionale, comme les 6 autres, donc qui sont des écoles doctorales thématiques et qui sont chapeautées, si je puis dire, par le collège. Vous m'entendez ? C'est bon ? Par le collège doctoral. Alors, ce collège doctoral existait déjà du temps du PRESS. Maintenant, c'est le collège doctoral de la commune Lille Nord de France. Et il a eu un effet bénéfique. Alors, effet bénéfique, pourquoi ? Alors, d'une part, parce qu'on est en général plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc, ça a permis d'échanger les bonnes pratiques, comme on dit maintenant, en tout cas les pratiques, alors non pas d'uniformiser les formations, mais de les harmoniser. Ça a permis aussi de faire nombre, c'est-à-dire que ce que ne pouvaient pas faire les écoles doctorales chacune de leur côté, le collège doctoral peut le faire, c'est-à-dire la représentation du doctorat dans les salons, enfin dans diverses manifestations. Le poids fait nombre et le collège doctoral donc rend plus visible nos écoles doctorales. Un dernier élément aussi d'amélioration, c'est ce dont on a parlé beaucoup aujourd'hui et hier évidemment, donc c'est l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Alors bien sûr, chaque école doctorale fait des choses à ce niveau, mais là encore, il y a eu un effet de nombre, déjà, c'est un peu comme les salons, au niveau de... Enfin, le monde socio-économique nous voit un peu plus quand nous faisons masse. Et évidemment, les rapports avec... le rapport avec les entreprises, les collectivités, et donc le dit monde socio-économique s'est trouvé facilité. Alors, juste une chose, bon, je suis... Catherine Maignan m'a dénoncé tout à l'heure, je suis helléniste. Il y en a encore quelques-uns. Donc je vais parler un peu des SHS. Le collège doctoral a eu un effet là encore très, très positif, au moins à deux niveaux. D'une part, parce que les SHS se sont retrouvés entraînés dans ce mouvement de réflexion sur la formation doctorale. On en a parlé un peu tout à l'heure, les étudiants sont parfois rétifs, alors je ne vais pas parler de plan A et de plan B, mais ils manquent parfois, et ça n'est pas leur faute, d'imagination, hein, ils sont encadrés par des professeurs qui sont dans ce monde académique, qui leur donnent d'ailleurs une image qu'ils veulent reproduire dans le meilleur des cas, alors parfois dans le pire des cas, ils veulent s'en échapper, mais bon, il y a là quelque chose, une ouverture qui a permis au SHS ce collège doctoral. Un autre élément aussi qui a été important, c'est toujours sur l'insertion professionnelle, les deux évidemment sont liés, et on peut noter maintenant que la sauce a pris, c'est-à-dire qu'au départ, alors je suis tout à fait d'accord, en maths, les problèmes sont, je cite les maths, excusez, que les maths m'excusent, ou en physique, les problèmes qu'on rencontre sont des problèmes assez semblables à ceux qu'on rencontre en sciences humaines et sociales, en tout cas dans certaines disciplines. Mais ce travail sur l'insertion, sur la réflexion sur l'insertion professionnelle des docteurs, sur le rapport à l'entreprise qui était tabou dans certaines formations, ce travail s'est fait aussi. Et ça doit beaucoup à cet effet d'entraînement, à cet échange entre les uns et les autres au cœur de ces écoles doctorales dans le collège doctoral. Alors pour parler tout ça mieux que moi, trois intervenants. Nathalie Bourgougnon, Nathalie Bourgougnon, qui est professeure à l'Université de Bretagne Sud, vice-présidente en charge de la formation doctorale à l'Université européenne de Bretagne. Alors c'est la commu bretonne avec 8 ED. Et donc Nathalie Bourgougnon anime le collège doctoral international de cette commu. Thomas Coudreau, professeur à l'Université Paris-Diderot. Il a dirigé l'école doctorale matière condensée interface donc à Paris-Diderot. Il a participé à la création du centre de formation des doctorants à l'insertion professionnelle de Sorbonne Paris-Cité. Vous l'avez dirigé. Il a ensuite été chef de projet pour la création du collège des écoles doctorales de Sorbonne Paris-Cité. Et là, ça m'a fait un peu drôle, je vais vous dire que ce collège rassemble 32 écoles doctorales et il le dirige. Bravo, félicitations, courage. Enfin, Monique Martinez, qui est directrice de l'école des docteurs à l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, présidente du tout nouveau réseau national des collèges doctoraux qui a été créé en mars dernier lors des RU. En fait, ce réseau existait, mais il était informel pendant 5 ans, il est resté informel et maintenant, ça y est, il existe officiellement. Voilà, et je vous laisse tout de suite la parole.
Peut-être sur la démarche, peut-être tu expliques, on va zoomer sur la démarche, qu'on va zoomer chacun.
Oui, alors voilà, ce qu'on vous propose cet après-midi, là, pour conclure, en fait, c'est le partage de notre expérience à travers les collèges doctoraux. Hein, donc on ne va pas parler d'école, mais on va parler de collège doctoraux.
Oui, et puis chacun, on a zoomé sur un aspect.
Voilà, et chacun, voilà, on a zoomé sur une particularité de nos collèges. Et donc je commence. Et donc moi j'ai proposé de vous présenter un peu ce qu'on faisait au niveau de l'international et dans notre collège doctoral. Voilà, donc juste un petit peu de géographie. Hein, donc vous verrez à la différence de Thomas et de Monique, hein, nous ne sommes pas sur une commune logée sur une métropole, hein, nous sommes sur une commune régionale, donc à l'échelle de toute la Bretagne. Donc c'est ce qui nous différencie de pas mal de communes actuelles. Donc l'Université européenne de Bretagne, elle a été créée en 2007 avec 28 établissements. Effectivement, une école doctorale, on a à peu près 2700 doctorants actuellement en thèse avec un flux sortant de 650. Alors, effectivement, vous voyez qu'on n'est pas sur une échelle de métropole. Donc, il y a 2 heures de route, voire des fois 3 heures qui nous séparent les uns des autres, hein, entre Brest et Rennes, ou Vannes et Brest. Et donc, on a un outil qui est assez performant, qui est également unique en Europe. Hein, c'est un outil qu'on appelle l'UEB Campus et qui permet notamment aux doctorants de pouvoir suivre des formations en salle immersive. Alors, c'est une sorte de visioconférence haut de gamme où on peut avoir nos interlocuteurs en face de nous sur d'autres métropoles de taille humaine. Hein. Donc on a cet UEB Campus a été développé dans toutes les métropoles de l'UEB, et ce qui est un gros avantage pour communiquer. Alors, pourquoi miser sur l'international à travers la formation doctorale? Bon, tout d'abord, c'est un objectif assez simple, c'est essayer d'accroître la visibilité et le rayonnement de l'enseignement supérieur et de la recherche internationale. C'est une stratégie pour une recherche d'excellence. Effectivement, si on envoie nos doctorants ou si on accueille de jeunes doctorants dans nos laboratoires en Bretagne, c'est une façon pour eux de se confronter à une nouvelle équipe, de pouvoir s'exposer à une autre équipe de recherche, à d'autres technologies, à d'autres savoir-faire. On a beaucoup parlé hier comme aujourd'hui de doctorants clés d'innovation. Ce matin, on a parlé du professionnel, de l'entrepreneur. C'est une façon aussi à l'international de valoriser ces différents points. C'est s'exposer à un environnement, une infrastructure internationale de recherche qui est indispensable pour le recrutement et la future carrière du doctorant, donc ça a son employabilité. C'est une façon aussi de préparer une nouvelle génération de chercheurs aux collaborations internationales de recherche, notamment H20A, et puis indirectement, de partir ou d'accueillir des doctorants chez nous, d'envoyer nos doctorants à l'extérieur, ça a un impact indirect sur les programmes d'éducation, de culture. Et enfin, c'est un excellent indicateur en temps réel de l'activité de recherche. Alors, comment faire pour essayer de valoriser ces points-là à l'international pour le jeune docteur? Donc, on essaie de les mutualiser au niveau du collège doctoral international qu'on a créé donc, dans la commune UEB. Donc, en partageant, en coordonnant toutes nos initiatives internationales pour la formation doctorale. Alors, quand on a monté le collège doctoral international en 2007, il y avait une nouvelle équipe de directeurs d'école doctorale qui était là. On ne se connaissait pas forcément tous très bien. Et de mutualiser cette action au sein du collège doctoral international, dans la commune, finalement, ça a été un excellent moyen de mutualiser et de nous connaître. On faisait beaucoup de choses dans nos écoles doctorales les uns et les autres, mais l'international, on ne pratiquait pas beaucoup. Et de travailler comme ça en commun sur cet objectif-là, ça nous a permis de nous rapprocher et de bien nous entendre sur un objectif commun. Travailler international, c'est un moyen aussi d'attirer des bons étudiants. Hein, je vous montrerai tout à l'heure comment. C'est essayer de donner une grande visibilité aux compétences transférables des docteurs à travers des formations attractives, parce qu'effectivement, on propose des formations doctorales à nos doctorants étrangers. Alors peut-être pas suffisamment encore au niveau de la commune, mais le collège doctoral international est là aussi pour essayer de mettre en place ces formations en langue étrangère. On peut également favoriser l'international de la formation doctorale à travers la signature d'accords entre universités sur un programme commun, à l'international toujours. Alors à l'UEB, on n'a pas beaucoup d'expérience là-dessus, à l'exception d'une convention cadre qu'on a signée il y a 2-3 ans avec le Canada. On peut également soutenir des co-tutelles et puis organiser des conférences, des écoles d'été hein, sur des thématiques bien précises pour essayer également d'attirer des jeunes doctorants. Donc je vous présente là quelques exemples qu'on a mis en place donc, au collège doctoral. Tout d'abord une plateforme où tous les sujets de thèse sont en ligne hein, pour essayer d'attirer les étudiants étrangers. Alors cette plateforme actuellement est en français. Elle va également être mise en place en anglais. Donc ça, c'est un outil aussi pour avoir un peu plus de visibilité et attirer nos doctorants, enfin nos jeunes doctorants. On est en train de travailler sur la coordination d'une procédure de recrutement qui est valable également pour ces jeunes docteurs. On a également sur les sites de Rennes et de Brest ce qu'on appelle un CMI, hein, donc un accueil individuel pour les doctorants et les chercheurs étrangers, pour leur permettre de mieux s'installer et de connaître, de favoriser leur implantation dans nos villes. On a mis en place un guide bilingue français-anglais qui présente la thèse, le doctorat en Bretagne, des flyers. On essaie de faire des promotions du doctorat dans différents événements à l'étranger. On a mis également une charte de thèse bilingue en place que vous pouvez télécharger sur le site de l'UEB. Et puis d'autres outils qui nous permettent une certaine visibilité également à l'international, c'est une couverture de thèse unique au niveau de l'UEB, une plateforme de projets européens qui permet aux chercheurs d'affiner et de les soutenir dans le montage de projets et des formations professionnalisantes. Là encore, je vous le disais tout à l'heure, qu'on essaie de rendre accessible en anglais hein, pour nos doctorants étrangers. Alors, dès 2007, on a mis en place un large programme de bourses de mobilité, à la fois des bourses de mobilité sortantes et entrantes, hein, donc sortantes pour nos doctorants bretons pour l'extérieur, hein, international, et entrantes pour accueillir des jeunes doctorants chez nous dans nos laboratoires. Donc ça, c'est un programme qui a été mené jusqu'en 2011, qui a été soutenu par le fonds d'amorçage du PRESS à l'époque, l'Université européenne de Bretagne, qui a été poursuivi après 2011 grâce au soutien de la région. Donc maintenant, on ne fait que simplement des bourses sortantes hein, pour nos doctorants. On a mis également en place en 2014 un soutien aux jurys internationaux. Donc des doctorants qui avaient une expérience internationale et qui souhaitaient avoir un jury mixte, on essaie de soutenir ces jurys-là. Bon, ça n'a pas eu vraiment beaucoup de succès, pour vous dire. On essayait de trouver un moyen également pour soutenir les doctorats européens, mais ça n'a pas tellement marché. Ce qu'on a mis aussi en place en 2013, et je reviens, c'est sur le fameux programme Université de Dalhousie. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on avait signé un contrat cadre avec cette université. Et donc là, on avait mis en place en 2013 un soutien à la mobilité vers cette université. donc bourse sortante, bourse 130. Et pour à chaque appel d'offres, ce qu'on a mis en place, c'est une enquête pour avoir une idée de la plus-value qu'on obtenait avec ce soutien-là. Et effectivement, on s'est aperçu que ces bourses entrantes et sortantes permettaient aux doctorants de réaliser des publications conjointes, favorisaient également la création de jurys internationaux, hein, de thèses, favorisaient les post-docs et puis étaient à l'initiative soit de la création ou alors de la consolidation de réseaux de recherche. Puisque je vous ai mis à droite sur les diapos, vous avez les destinations par continent des doctorants qui ont une bourse de mobilité par l'UEB, donc plus vers l'Europe et les États-Unis. Et puis vous avez également l'origine des doctorants étrangers qui ont une bourse de mobilité en 30. Donc il a bien également plus de l'Europe. Alors d'autres exemples à l'international qui remontent aux premières années notamment de l'UEB, un programme autour de la Saxe, hein, qui est une région en Allemagne, où il se trouve que la région Bretagne avait des fortes collaborations avec cette région-là. Donc on a mis en place des petits congrès destinés aux doctorants, leur permettant d'échanger, hein, entre notre région et la Saxe. On a misé énormément également sur le Brésil. Il se trouvait que le Brésil était une des destinations phares à la fois des doctorants, mais également les chercheurs de l'UEB avaient pas mal de programmes avec ce pays-là, qui était également soutenu par la région Bretagne. Donc on a eu pas mal de... On a réalisé pas mal de choses avec le Brésil. Et puis le dernier événement majeur, hein, c'est la signature, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une convention cadre avec l'Université Dalhousie à Halifax autour d'un programme commun et surtout le soutien de Cotutel. Voilà, et pour terminer, donc l'UEB, c'était 2007. Là, on part sur une nouvelle commune qui entraîne pas mal de bouleversements dans notre organisation, hein, puisque nous partons vers une commune UBL, Université Bretagne-Loire. Et donc, nous avions 8 écoles doctorales en Bretagne, 9 en Pays de Loire. Et donc là, nous travaillons sur un schéma de 11 nouvelles écoles doctorales, avec une école de docteur et 6 collèges de site. Donc voilà, ce qui nous prend pas mal de temps actuellement. Et c'est le nouveau projet sur lequel nous travaillons actuellement.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord commencer par remercier les organisateurs et toutes les personnes qui ont contribué à rendre possible ce colloque et tous ces échanges extrêmement intéressants, et d'avoir pensé à nous pour venir faire ces présentations. Comme ça a été dit, je vais focaliser ma présentation sur un des aspects de ce que peuvent faire les collèges doctoraux, et ici je vais parler donc de formation transversale, étant entendu que beaucoup de communes font des choses, la plupart évidemment, ou de collèges, d'établissements ont des actions là-dessus, mais que je présenterai celle que je connais le mieux, c'est-à-dire celle du SPC. L'objectif de ces formations transversales et de ce que peuvent faire les collèges doctoraux ici, c'est d'aller plus loin que ce que peut faire une école doctorale seule. Ça a déjà été dit en préambule de cette table ronde, pour des questions notamment de taille, puisqu'on a une capacité à mettre en place des choses qui s'adressent à un grand nombre de doctorants. Je reviendrai sur ce que ça veut dire à l'échelle du SPC. Donc, les formations transversales ici sont des formations qui sont adaptées aux activités des doctorantes et des doctorants pendant leur thèse, qui sont plus ou moins indépendantes de leur discipline de recherche. Donc évidemment, quand on va travailler sur un certain nombre de sujets, c'est pas indépendant. J'ai appris que quand on rédigeait un article en anglais, dans certaines disciplines, il était écrit au présent et dans d'autres cas au passé. Donc on ne va pas faire le même cours d'anglais pour la rédaction d'articles à ces différentes disciplines. L'idée de départ est évidemment de permettre une poursuite de carrière dans tous les secteurs possibles, le secteur académique, mais aussi le secteur socio-économique, la fonction publique, etc. L'objectif, alors je ne saurais pas traduire non plus forcément le mot d'empowerment, mais je dirais qu'on cherche à faciliter l'initiative des doctorants en les mettant au cœur du dispositif et en essayant toujours de se placer de leur point de vue. Alors, j'ai essayé d'illustrer mon exposé par quelques petits dessins pour vous soulager un peu après cette longue, ces deux journées. Alors, donc d'abord, l'idée sur la gauche, qu'il s'agit d'offrir des outils aux doctorantes et aux doctorants, et un collège doctoral est à même d'offrir une très grande palette d'outils de par sa taille, même si un outil ne va servir qu'à très peu de personnes. Et ben on peut mutualiser des choses et offrir des outils très pointus malgré tout. Et ensuite, là aussi, d'ouvrir, ça a été dit déjà dans une intervention tout à l'heure, par les rencontres qui sont permises lors de ces formations, une ouverture aux autres disciplines, et évidemment, bien sûr, aussi aux autres débouchés que la carrière académique, qui sont souvent les débouchés les plus présents dans l'esprit des doctorants au moment du début de leur thèse. Alors, au niveau du SPC, qu'est-ce que ça donne? Alors d'abord, peut-être juste un mot du SPC. USPC, c'est juste pour le doctorat, c'est 8 établissements, donc 4 universités, 4 instituts de recherche, de formation, 5 organismes de recherche. Tout ça accueillant, ça a été dit tout à l'heure, 32 écoles doctorales, peut-être même plus, j'ai l'impression, dans absolument tous les domaines du savoir, inutile de le préciser, diplômant environ 1100 docteurs par an. Alors, la réflexion sur les questions de formation transversale a démarré vers 2009, où on a commencé on s'est dit qu'il fallait prendre la suite d'un dispositif que vous connaissez, je pense, pour la plus tard, qui s'appelait les CIES, les centres d'initiation à l'enseignement supérieur. Donc on voit déjà qu'ils étaient orientés vers un objectif unique, alors qu'il s'agissait pour nous d'élargir cet objectif. Et par ailleurs, du fait du bassin de ce CIES qui était partagé principalement par Paris 6 et Paris 7, c'était très orienté vers les doctorants scientifiques, alors que, évidemment, il y a tout un tas d'autres publics qu'il s'agissait de traiter. Alors, une fois de plus, l'idée de travailler à l'échelle du SPC, c'est immédiatement imposé à nous, parce que c'est la bonne échelle qui permet les mutualisations. Les CIES travaillaient déjà à l'échelle de plusieurs universités, et donc il n'y avait pas de raison, on voyait bien d'ores et déjà les avantages de ça. Alors, en 2010, on a donc créé à l'Université Paris Diderot un centre de formation des doctorants en insertion professionnelle. Pourquoi il a été créé à Paris Diderot? Principalement pour des raisons administratives qui sont liées à la création du PRESS en même temps, et donc c'était plus simple de le créer à ce moment-là. On a tout de suite commencé à ouvrir un très grand nombre de formations pour l'ensemble des doctorants, au départ plutôt ceux qu'on appelait les moniteurs, donc les doctorants contractuels avec mission complémentaire d'enseignement généralement, les ouvrant petit à petit. Donc une de nos actions a été par exemple la création en 2012 de ce qui s'appelle maintenant le Certificate in Business and Administration, qui est une formation longue qui se déroule sur 2 fois 7 jours en anglais, la création vraiment de formations ambitieuses, très importantes à ce moment-là, destinées à l'ensemble des doctorants, non seulement les moniteurs, mais aussi le reste des doctorants. Et puis plus récemment, il a été décidé, et ça c'est rendu possible notamment par le financement de l'IDEX, d'ouvrir l'ensemble des formations à l'ensemble des doctorants. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici. Je dois également souligner que nous bénéficions du soutien de la région Île-de-France et également de Pépite pour un certain nombre de nos formations, en particulier l'entrepreneuriat. Inutile de revenir sur l'importance de ces formations actuellement. Alors, de nouvelles formations, de nouvelles images. L'idée de trouver chacun sa partition, là aussi, et de travailler en concertation et avec les doctorants et avec les écoles doctorales pour trouver des formations adaptées à toutes et à tous. Et également, petite image en bas à droite signale que effectivement l'ensemble des formations peut être financé via l'IDEX et donc ne repose pas sur le budget des écoles doctorales. On a cette chance. Alors peut-être quelques petits éléments de volumétrie. Ici vous avez le nombre de jours de formation qui ont été faits en 2012-2013 et en 2013-2014. Donc les barres bleues, les plus importantes, c'est le nombre de jours proposés. Donc vous voyez qu'on propose un nombre de jours extrêmement important de formation, près de 8000 l'année dernière. Ensuite, les barres rouges, ce sont le nombre de jours maintenus. Quand un nombre de formations, un nombre de doctorants trop faible est inscrit à une formation, la formation est annulée pour éviter qu'on paye des formateurs à, entre guillemets, devant un public, à ne rien faire, c'est-à-dire devant un public trop faible. Et puis en vert, enfin, le nombre de jours suivis, vous voyez qu'il y a un écart à chaque fois important entre les derniers éléments. La difficulté d'organiser des formations pour ce public est connue, je pense, de vous tous. Et c'est une problématique qui rejoint aussi celle de la formation continue, où là aussi la disponibilité des participants pose toujours question. C'est vraiment important de souligner le travail extrêmement important qui doit être fait pour ajuster en permanence les formations qui sont ouvertes ou pas, etc. Cette évolution doit se faire en permanence et ça demande un travail sur les équipes administratives et pédagogiques qui est extrêmement gros. Donc je tiens à les remercier à nouveau ici. Alors, quelques exemples. Là aussi, beaucoup de communes se sont saisies de cette question et ont fait des choses qui peuvent être similaires. Des parcours un peu longs et exigeants. Il en existe un peu partout. Dans notre cas, donc celui de In Business and Administration que j'ai déjà cité, dont la particularité peut-être est de faire un usage très important des outils de simulation. Ces outils de simulation d'entreprise sont habituellement réservés aux écoles de commerce ou de management. Ici, on utilise ça. Donc ça a un coût important, mais le jeu en vaut la chandelle et c'est une formation qui est ouverte à plusieurs douzaines de doctorants chaque année. Plus récemment, ont été créés un certificat sur les compétences numériques. L'importance des réseaux sociaux, l'utilisation de ces réseaux est indispensable pour l'ensemble de nos activités, qu'il s'agisse de nos activités de recherche ou d'enseignement. Et donc ce certificat est destiné à aider les doctorants à se former à ces techniques. Et enfin, un certificat médiation et journalisme qui a la particularité de mélanger deux types de publics. D'une part, des doctorants en sciences qu'on pourrait qualifier d'inhumaines, ou dures, ou je ne sais pas comment vous les appelez, qui plus assez habituellement font vers la médiation scientifique, vers le grand public, etc. Et des doctorants plutôt SHS, en sciences molles ou humaines, vous les appellerez comme vous voulez, qui eux s'orientent plutôt vers le journalisme. Et donc on mélange ces publics, on mélange ces objectifs, et c'est ça qui fait la richesse aussi de cette formation. Il y a également un effort important sur les langues, sur l'anglais. Je cite la question de la remédiation, c'est-à-dire de traiter les doctorants qui parlent très mal anglais, les doctorants français qui parlent très mal anglais. On fait un test à l'entrée pour les doctorants. On s'aperçoit qu'une partie non négligeable d'entre eux a à peine le niveau bac. Donc il faut faire quelque chose et dire qu'il faut leur apprendre à rédiger des articles. Il faudrait d'abord qu'ils sachent à peu près les lire et on va commencer ensuite, on discutera de les écrire. Mais évidemment, pour ceux qui ont un niveau plus avancé, on va travailler sur la rédaction, l'expression orale, naturellement. Pour le français, des choses qui sont à la fois sur le FLE, le français langue étrangère, pour les personnes, les doctorantes et les doctorants qui découvrent le français, mais aussi pour ceux qui en ont déjà une certaine maîtrise, pour lesquels on va aller les amener à pouvoir écrire complètement leur mémoire dans leur manuscrit de thèse en français. Et enfin, on a la chance d'accueillir dans notre commu l'INALCO, que vous connaissez peut-être sous le nom de Langzo. Et donc, on a saisi cette opportunité pour offrir d'autres langues, y compris des langues vraiment rares. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour l'ensemble de nos doctorants, parce que vous pouvez vous trouver dans un établissement où trouver un cours de perse, c'est pas très simple. Et là, on a la possibilité, toujours grâce à cette mutualisation, d'offrir ça aux doctorants. Voilà, c'est résumé ici, à la fois parler tous les anglais avec tous les anglais possibles avec un anglais et l'ouverture au monde via le français langue étrangère. Et je voudrais juste terminer avec cette image du caméléon. Ce caméléon qui peut être vu de plusieurs façons. Ça peut être soit une jeune docteure qui MU pour utiliser, pour voir en fonction des différentes missions qu'elle va devoir accomplir ou des différents métiers qu'elle pourra avoir, mais c'est peut-être aussi la nécessaire mutation de l'ensemble de la société, et notamment du monde académique, pour mieux former les docteurs et les doctorants et les docteurs. Merci.
Donc, il m'appartient de zoomer maintenant sur la mutualiser pour la poursuite de carrière. Donc, vous l'avez compris, donc nous pensons que les collèges, le fait de mutualiser, constitue vraiment une valeur ajoutée pour les écoles doctorales. Et donc, nous avons créé en Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées une école des docteurs. Alors, bon, c'est un projet IDEX. Et ça vit la vision, disons, de ce projet est de favoriser la poursuite de carrière des doctorants en valorisant le diplôme auprès de tous les secteurs socio-économiques et culturels, que ce soit l'entreprise, les associations, les ONG, les organisations non académiques, etc. Alors nous avons choisi le modèle fédératif donc, pour cette école des docteurs, donc 15 écoles doctorales dans l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Certaines, bien sûr, comme c'est le cas pour la plupart des sites, sont pluri-établissements. Et donc il nous a semblé que cette fédération pouvait utilement contribuer donc, à traiter de façon équitable tous les doctorants de chaque établissement du site. Alors nous l'avons construite, et ça depuis le début, sur le principe de subsidiarité. Alors quelque chose de tout bête, c'est-à-dire chaque chose au meilleur niveau et le meilleur niveau pour chaque chose. Les 15D ont pensé qu'elles pouvaient bien sûr développer les missions pour lesquelles elles semblaient être particulièrement efficaces, c'est-à-dire il y a le scientifique avec leur laboratoire, la gestion du diplôme, enfin tout ce qu'elles pouvaient développer lié vraiment à leur cœur de métier, et que nous serions plus forts en nous unissant et pour développer d'autres missions. Alors ces missions, nous les avons identifiées, nous les avons développées. Donc la mission du numérique, la mission de l'international, des formations complémentaires et de la poursuite de carrière que je vais traiter aujourd'hui. Alors il nous a semblé qu'on gagnait du temps. Il nous a semblé qu'on gagnait en efficacité. Il nous a semblé qu'on avait plus de moyens. Bon, on a eu l'IDEX aussi, ça a pas mal aidé. Mais on a eu aussi, parce qu'on avait déjà lancé cette dynamique-là de travailler ensemble. Donc c'est un projet qui était mûr pour être déposé. Et donc en tout cas, il nous a semblé que ça donne énormément de visibilité et de rayonnement au doctorat de l'Université de Toulouse, puisque c'est le titre sous lequel ce diplôme est délivré à Toulouse. Alors une visibilité bien sûr au niveau national et international. Quand on va à Chine dans un salon, déjà si les doctorants qui veulent s'inscrire savent où est Toulouse, on a de la chance. Si on l'emmène en avion, peut-être un peu plus, parce qu'il y a Airbus, mais c'est vrai que ça donne une forte visibilité. Alors ce travail collaboratif, nous l'avions démarré dès 2007, et donc il a été renforcé et particulièrement développé depuis la signature de l'IDEX en 2013. Et on peut même dire que le presse s'est constitué, comme c'est le cas un peu partout, autour des écoles doctorales. Alors, quelle est la valeur ajoutée donc, de ce travail collectif, collaboratif, et qui implique toutes les disciplines? Eh bien, nous avons mis au point des outils communs pour guider le doctorant et pour guider au pilotage du doctorat. Alors, en créant un observatoire du doctorat, alors bien sûr, on ne saurait insister sur la nécessité de bénéficier d'indicateurs, hein, bien sûr, qui sont fondamentaux pour connaître les poursuites de carrière sur le site. Bon, par école doctorale, bien sûr, très très, très important, mais aussi globalement, parce qu'un homme ou une femme avisée en vaut deux, et donc il vaut mieux que les jeunes, en s'inscrivant dans une école doctorale, sachent quel avenir professionnel les attend. Alors, nous avons fait une communication ciblée. Alors, grâce à un outil numérique dont nous sommes dotés, nous envoyons alors tous les mois, et puis on a un petit peu ralenti parce qu'on est très très insistant, mais nous envoyons donc une newsletter spéciale insertion, donc envoyée aux 4500 doctorants du site, en leur disant attention, seuls 30% des doctorants vont dans l'enseignement supérieur, attention, voilà quels sont les secteurs qui recrutent. On essaie de les sensibiliser. On a aussi créé une plaquette pour l'entreprise, alors je ne sais pas, elle est là, Nathalie, voilà, c'est pas très original, mais pour la bonne santé de votre entreprise, recrutez un docteur, et les docteurs sont 100% déductibles, c'est pas très élégant, mais au moins ça peut marcher peut-être pas. Donc on a aussi constitué une offre de formation en 7 champs thématiques, donc un petit peu reprenant hein, tout ce qui est fait dans les collèges doctoraux, mais en lien vraiment précis avec les objectifs de poursuite de carrière des doctorants, tels qu'ils ont été définis avec leur laboratoire et leurs encadrants. On a plusieurs parcours, enseignement et recherche, secteur privé, métier à l'international, création d'entreprise, et on a même des parcours pour les indécis, ceux qui, un an et demi ou deux ans, se disent « Ah mais non, je me suis trompée de parcours », on leur a créé même un parcours
spéciale amnésie, donc, pour qu'ils puissent se réorienter en cas d'errance. Donc, cette mutualisation aussi, ça c'est un aspect qui a été traité depuis les deux jours, est très utile pour les bilans de compétences, parce que bon, on a des modules de formation de deux jours, des outils numériques, du coaching qui sont utiles à tous, et puis le tout numérique. On a vraiment parié sur le tout numérique parce que nos ED sont pluri-établissements et le doctorant est international, beaucoup de doctorants vont à l'étranger, et donc nous avons choisi donc, le système ADUM donc, pour gérer donc, le diplôme de doctorat de Toulouse et même pour les inscriptions donc, administratives aux formations. Et ça, c'est très utile parce que les formations ont lieu, elles sont évaluées à l'instant T. Et donc, on a un taux de satisfaction qui a énormément augmenté, puisqu'on atteint maintenant, je crois que c'est quasiment 95% de satisfaction sur les formations évaluées. Donc, nous avons aussi constitué un réseau, alors en faisant une association qui regroupe des associations, un réseau de doctorants pluridisciplinaires, parce que la commune, c'est quand même un espace privilégié pour la création de nouvelles synergies, de nouvelles niches de développement, de nouveaux projets communs. Et ça, je crois que c'est très important que l'université ait ces espaces où toutes les disciplines se rencontrent. Alors, notre grand challenge, alors on a beaucoup échangé dans le réseau national de collèges doctoraux. Je crois que ça, c'est formidable d'avoir. On se nourrit des bonnes pratiques des uns et des autres et on se nourrit aussi des mauvaises pratiques quand des choses n'ont pas marché. C'est bien de pouvoir l'identifier. Donc, le lien avec le secteur non académique nous paraît fondamental. C'est-à-dire que c'est très lourd que chaque ED prenne contact avec tous les partenaires qui sont utiles à la valorisation du doctorat. Hein. Ça, même des partenaires non académiques, des institutions, des collectivités ou des entreprises. Donc, on va créer un club de partenaires donc, qui va œuvrer à la valorisation du diplôme. Il est pratiquement créé maintenant et qui va être investi à plusieurs titres dans des formes. Dans des formations comme les doctoriales que vous connaissez tous, où là, les industriels, les partenaires mettent à disposition du mécénat de compétences, des projets d'innovation, aident aux projets d'innovation. Bien évidemment, ce club des partenaires contribue à la journée de découverte des métiers non académiques. Donc, on a des dispositifs, des tas de collèges l'ont aussi, hein, des journées où les gens se rencontrent, on parle. On a un atelier auquel on tient beaucoup, qui est un atelier projet-entreprise, c'est-à-dire où on fait travailler ensemble avec des coworking, un peu sur le modèle aussi des doctoriales de Bretagne. Et donc, on fait travailler ensemble donc, des doctorants, toutes disciplines confondues, avec des entreprises pour générer des niches d'innovation. Donc, ce sont des structures vraiment qui peuvent générer des postes, qui peuvent générer des post-doctorats ou même des contrats dans l'entreprise. Alors, comme tu l'as dit, Catherine, on l'a testé avec les arts, les lettres et les langues. Alors, si ça marche avec les arts, les lettres et les langues, il y a de fortes chances que ça marche aussi avec les autres disciplines. Nous sommes en train de créer une plateforme CIFRE. C'est-à-dire que pour les industriels, bon, l'université est quand même un monde très difficile à comprendre. Hein. On a des tas de niveaux de structuration, des acronymes. Et donc, on voudrait, donc sur le modèle de la banque de sujets à l'international dont tu as parlé, Nathalie, donc offrir une possibilité pour les entreprises et les laboratoires de déposer des offres de CIFRE en ligne et donc de pouvoir permettre donc, le lien, créer des dispositifs de lien entre universités, entreprises, pour lesquels nos amis de l'AEF œuvrent depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est très très important. Et puis les salons, nous allons de façon concertée sur les stands, ça aussi c'est beaucoup de travail, c'est des 15 ED avaient à le faire toute seule, là nous y allons ensemble, et donc nous sensibilisons les employeurs, donc j'ai cité le RU, hein, nous participons activement au RU, le Parfois pour l'Emploi, tous les salons, dès qu'on peut y aller de façon concertée, on fait de la sensibilisation. C'est ainsi que l'aéroport de Paris l'an dernier était content parce que grâce à l'action du RU et des réseaux de dons, ils ont embauché deux docteurs. Ce n'est pas de fourmis, mais on avance. Donc, quelle action de sensibilisation? Donc, nous accompagnons la loi de juillet 2013. Nous faisons un travail de lobbying fondamental et très chronophage pour chaque ED. Moi, je suis vraiment persuadée que l'union fait la force et que chaque ED peut s'épuiser à toujours essayer de sensibiliser. Chacun le fait à son niveau, mais c'est bien de le faire ensemble et de le faire de façon concertée et organisée. Donc, nous faisons du lobbying auprès des accompagnateurs de l'emploi, des employeurs, des organisations patronales. Et je crois que notre enjeu, et c'est celui aussi du réseau national des collèges doctoraux, c'est de rendre visible ce diplôme de doctorat. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Si nous sommes réunis, c'est pour cela. Le diplôme de doctorat doit être opéré comme le plus haut diplôme de l'université française. Il y a des actions emblématiques pour cette visibilité. Le concours docteur entrepreneur qui a été lancé par le RU au moment du RU l'an dernier et
que nous sommes partenaires, le réseau national des collèges doctoraux, ma thèse en 180 secondes, qui est vraiment un moment formidable, théâtral, délicieux pour toute la collectivité, puisque nos jeunes doctorants présentent en 3 minutes donc, leur travail de thèse. Les doctorants sont présents aussi dans les grands événements scientifiques en région et au national, la fête de la science. Et voilà, donc voilà, nous avons voulu absolument parler au nom du réseau. Il y a beaucoup d'amis dans la salle. Ça fait 5 ans qu'on travaille à cette valorisation. Je crois que le doctorat est un levier, on l'a vu, de l'innovation. Et pour l'innovation, et au cœur de l'économie de la connaissance et de la créativité qui construit ce siècle qui s'ouvre devant nous. Et devant lui.
Merci beaucoup. Alors, je trouve que vous avez donné tous les trois un bel exemple de ce que c'est qu'un collège doctoral. J'ai vu passer un message ce matin, j'écoutais attentivement, mais en même temps, comme tout le monde, je regarde mes mails. Il y avait un message qui critiquait des collèges doctoraux comme des structures administratives lourdes. Vous donnez l'exemple que le collège doctoral doit être compris comme un lieu de construction commune, de mutualisation, et tout cela est pensé et fait au service du doctorant. Donc, merci de nous avoir montré ça, et je passe tout de suite la parole à qui veut la prendre. Oui, monsieur.
Denis Maillet, de l'école doctorale EMA, Université de Lorraine. J'ai un problème de terminologie. Un doctorant de la CJC a remarqué que parler d'insertion des doctorants, c'est quelque chose d'assez négatif, et qu'il fallait plutôt parler de formation pour la poursuite de carrière, ce qui serait beaucoup plus logique, puisque normalement, la première expérience professionnelle, c'est la recherche scientifique en laboratoire. Donc pourquoi ne parliez pas plutôt de formation continue des doctorants, qui leur permet d'acquérir les compétences qui leur vont manquer pour la poursuite de leur carrière. Merci.
Alors, il y a plusieurs questions. D'une part, sur les formations dites transversales, où là, effectivement, on pourrait envisager de parler probablement de formation continue. Ensuite, il y a les formations disciplinaires, où là, la frontière est plus compliquée. Même un enseignant-chercheur, on pourrait considérer, ou un chercheur fait de la formation continue en allant en colloque. Mais il y a quand même des dispositifs spécifiques de formation des doctorants ou des jeunes chercheurs, ce qu'on appelle les écoles d'été, etc. Est-ce qu'il faut appeler ça de la formation continue ou de la formation initiale? C'est vrai que la dénomination est c'est difficile, la frontière est compliquée à tracer. Alors je voulais juste revenir sur notre difficulté propre à Sorbonne Paris Cité. C'est vrai qu'on a démarré sur un centre de formation des doctorants à l'insertion professionnelle. Et maintenant on est bien embêté parce qu'il faut changer son nom. Parce qu'insertion professionnelle, on est bien d'accord avec vous, c'est pas tout à fait le terme adapté. C'est d'ailleurs le directeur actuel du CFDIP qui l'a fait remarquer, donc il est bien placé pour le savoir. Mais ensuite, il faut trouver un titre adapté. Il se trouve que le CFDIP est connu parmi les doctorants et les directeurs d'écoles doctorales. Changer le nom, on est en train de passer à quelque chose, peut-être on arrivera à un centre de formation des doctorants initiative professionnelle pour garder l'acronyme. Voilà, c'est difficile. Je suis d'accord que parler de formation continue, c'est pas mal. Simplement, c'est à nouveau, je ne suis pas sûr que pour tous les formations, ce soit correctement adapté.
Bonjour. Alors déjà, merci pour cette intervention. Il y a plein de choses intéressantes à voir dans les différents collèges doctoraux. Alors je vais me présenter, effectivement, pour la intervention. Alors je m'excuse, la Lorraine va beaucoup parler. Ludovic Martinet, doctorant à l'Université de Lorraine, et accessoirement aussi ancien représentant des doctorants du conseil scientifique au CLED, le collège lorrain du CLED doctoral. Moi, il y a une petite chose que je voulais un peu remettre en perspective, c'est la participation des doctorants dans les collèges doctoraux, parce que c'est une chose qui me semble extrêmement importante. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais si j'avais une envie un peu de mutualiser quelque chose avec une expérience un peu autre, c'est que chez nous, chaque ED a un représentant des doctorants, donc je vois que visiblement c'est pareil aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que c'est ce qui permet une vraie collaboration, parce que les doctorants en tant que professionnels ont aussi des regards sur leur formation et sur ce sur quoi ils attendent à être formés. Et je pense que c'est très important d'avoir une vraie collaboration entre les doctorants et les directeurs des doctorales. Nous, on essaie de la développer au maximum et je pense que ça marche bien. Je regarde le coordinateur du CLED à côté de moi et ça marche plutôt bien. Et en plus, on a vu que ça développe les initiatives des doctorants et qu'on a des vraies communautés de doctorants qui se forment, qui se rencontrent. Et ça permet aussi de débloquer pas mal de situations entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Et du coup, c'est quelque chose de très important. Donc, si j'ai un conseil à vous donner vraiment, c'est de faire participer au maximum vos doctorants dans vos collèges doctoraux et dans vos ED. Parce que c'est comme ça qu'on les implique et c'est comme ça qu'ils apportent, je pense, les meilleures propositions. Je vous remercie.
Oui, peut-être une réponse rapide. Nous avons écrit le projet École des docteurs avec les doctorants. Les doctorants élus des 15 ED font partie du collège doctoral. Tous les mois, on se réunit. On les a intégrés. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas.
Je voulais dire un mot sur l'aspect structurant. Je pense que les écoles doctorales ont eu un effet structurant déjà, parce qu'elles ont amené dans les conseils, les écoles d'ingénieurs, les laboratoires, les CNRS, à se parler, à discuter, souvent beaucoup de grades. Et les collèges doctoraux, c'est le niveau dessus de la structuration, puis ça amène les établissements à se parler, à discuter. Je crois que c'est extrêmement important.
Oui, c'est Brune Fantapie, donc vice-présidente de l'ANDES, l'Association nationale des docteurs. Donc, dans cette démarche réseau, donc la création officielle du réseau des collèges doctoraux, on parle de la représentation des doctorants. Il y a aussi la représentation des associations de valorisation du doctorat, donc que sont l'ANDES ou la CJC. Donc j'espère que nous pouvons mutualiser aussi sur ces actions.
Donc les statuts ont été déposés, je crois, aujourd'hui. Donc vous serez prévenus. Et j'invite de toute façon tous les collèges doctoraux à se joindre à nous. La prochaine réunion est à Lyon. Donc voilà, vous êtes les bienvenus.
Bonjour, Pascal Javaille, chargé d'accompagnement professionnel des doctorants à Marseille Université. J'aurais une question très très prosaïque à vous poser. Je voudrais connaître le budget par doctorant pour la formation que vous avez dans chacun de vos collèges.
De tête.
La question.
Nous, on a à peu près un budget de 50 000, entre 50 et 80, et pour 2700 doctorants. Donc voilà, mais bon, tous ne les suivent pas.
La question portait sur les collèges même.
C'est bon.
Environ 300 000 euros. Je
Si je peux donner uniquement le chiffre sans bonne parité, c'est autour de 500 000 euros complet, c'est-à-dire les salaires des administratifs tout compris. Voilà, il y a trois personnes, donc c'est donné autour du même ordre de grandeur, je dirais 350 000 euros tout compris.
350.
Et donc, 350. Ça, c'est les formations transversales.
Mais sans salaire.
Ça, c'est sans les salaires, et je ne parle pas des formations disciplinaires délivrées par les écoles doctorales qui sortent de ce budget. 6500 doctorants, mais après c'est très difficile parce que l'ensemble des doctorants ne suivent pas les formations, on a déjà discuté tout à l'heure.
Marie Mécoute, directrice du collège des études doctorales d'Avignon. Alors, une question toute bête, je vais passer pour une mal informée, mais donc j'apprends l'existence de la création d'un réseau des collèges, je suis ravie. Je voudrais simplement savoir plus sur l'initiative, qui a été à l'origine, qui a été contacté. Alors, je sais bien que je suis dans une toute petite université qui, dans l'avenir, peut-être prochain, ne fera plus de formation doctorale, parce que je ne suis pas sûre, après les deux journées que nous avons entendues, qu'on puisse continuer à penser, former des doctorants et des futurs doctorants dans toutes les universités françaises. Donc, bon, ça, c'est une question qui reste quand même en suspens, mais peu importe. Mais en revanche, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre initiative, qui est à l'origine, et puis quelles sont les finalités de ce réseau, puisque à titre collectif pour Avignon, nous serions intéressés.
Vous êtes les bienvenus.
Donc je vais vous répondre pour votre question. En fait, je suis à l'initiative de l'idée. Le PRES, Université Européenne de Bretagne, a été créé en 2007, et c'est vrai que les collèges doctoraux de PRES n'existaient pas. Et donc j'étais à la tête de ce collège doctoral, on ne savait pas si on allait dans la bonne direction, si on travaillait bien. Et donc en 2010, j'ai pris la carte de la France avec les PRES, et j'ai contacté les animateurs de ces PRES-là à l'époque, et on s'est retrouvés donc avec André, Monique et un certain nombre de directeurs de collèges doctoraux de presse, et c'est né comme ça. L'année d'après, c'est Toulouse, où je ne sais plus où, enfin bon, on a circulé comme ça.
Paris-Tech et Régine.
Voilà, Régine qui a dû organiser, je ne sais plus, la deuxième ou troisième, il y a eu Marseille, enfin voilà. Enfin,
Clermont bon. Aussi.
Et donc ça, l'idée, c'était d'échanger nos pratiques, parce qu'on allait chacun dans une voie, mais on ne savait pas si elle était vraiment idéale. Et donc, Monique a pas mal repris le relais avec André, là, pour affiner ce réseau et puis l'officialiser avec des statuts l'année dernière aux rues.
Donc voilà, la réunion de Lyon sera importante. On dépose aujourd'hui les statuts de l'association et le plan de com va démarrer. Donc voilà, on en a parlé hier. Donc voilà, on espère qu'on va avoir de la visibilité. Vous êtes les bienvenus.
Oui, bonjour, merci pour cette intervention, très intéressante. Une question à Louis Delancourt, je suis directeur d'une école doctorale de sciences, technologies et santé à La Réunion. Et pour revenir un peu ce que disait la collègue de l'Avignon, moi je suis un petit peu inquiet quand je vois la taille des collèges. Nous, on a un collège qui est ridicule, on a tous des écoles doctorales. Et on s'est intéressé juste pour rejoindre évidemment cette association, mais je reste quand même très inquiet par rapport à la taille des collèges. Et aux moyens que vous avez par rapport aux moyens que nous on peut avoir, on se débrouille avec ce qu'on a, mais c'est vrai que c'est.
En tout cas, on veut bien aller vous voir, hein. On veut bien que la prochaine réunion se passe chez vous.
On veut bien vous accueillir, pas de problème.
Enfin, je crois que l'idée, juste, enfin, peut-être la particularité des. On ne fait rien de plus, entre guillemets, on n'est pas meilleur qu'une école doctorale. L'école doctorale a beaucoup de choses, simplement une école doctorale, entre guillemets, c'est petit. C'est difficile, on entendait parler hier d'une énorme école doctorale à Aix-Marseille où la qualité de ce qui était fait pour le devenir professionnel et doctorant était extrêmement impressionnant, les venues d'entreprises dans les laboratoires, etc. Généralement c'est difficile à organiser au niveau d'une école doctorale, là c'est ce qui a été dit en préambule, hein, c'est l'union fait la force. Donc l'idée c'est là aussi ce réseau, l'objectif c'est de donner à tous les communes, qu'elles soient petites, grandes, communes, pas communes, presse, établissements, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est la volonté d'essayer de faire des choses sur le doctorat pour faire évoluer. On en a parlé. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire évoluer les mentalités des doctorants, des encadrants, des entreprises. Voilà. Et donc, c'est ça. Et après, c'est vraiment un espace de partage où les idées sont là pour être prises.
C'est de nouveau Simon Thierry avec Métis. J'ai des questions par rapport au cadre réglementaire pour les collèges doctoraux. Jusqu'à il y a peu de temps, enfin, jusqu'à maintenant encore, ils n'ont pas d'existence légale en eux-mêmes. Dans le projet d'arrêt actuel, on les mentionne et on dit que c'est possible de déléguer un certain nombre de fonctions sans aller plus loin. J'imagine, je m'avance peut-être que vous n'êtes pas forcément favorable à un cadrage réglementaire trop fort des collèges doctoraux pour garder cette initiative. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et la question qui va derrière aussi, c'est quid de l'évaluation des collèges doctoraux. À l'heure actuelle, pour ce que j'en sais au niveau du HCERS, l'évaluation, elle se fait au niveau des écoles doctorales. Il rend parfois difficile l'évaluation de tout ce qui a été délégué aux collèges doctoraux. Donc est-ce que là-dessus, il y a des avis, des recommandations, ou alors est-ce que je suis à la ramasse, qu'en fait, il y a aussi des évaluations au niveau des collèges doctoraux. En tout cas, je m'excuse auprès des représentants du HCERS de la section 3.
Alors, pour l'évaluation, juste par rapport à l'expérience qu'on avait eue, nous, pour l'Université européenne de Bretagne, donc effectivement, la dernière évaluation remonte à 2010, on est dans la vague B, là, donc on va être de nouveau évalué. L'AERS à l'époque était venue donc à l'UEB pour voir un petit peu tout ce qu'on faisait en transversal. Donc ils avaient peut-être passé une matinée avec nous. Donc il n'y avait pas vraiment eu d'évaluation, mais il y avait eu une information importante. Et après, les experts étaient allés dans les écoles doctorales au niveau de toute la Bretagne. Et la première question, ah oui, c'était à propos du cadre un peu des collèges. Donc moi, je vous retransmets un peu l'expérience qu'on a actuellement dans le montage de la nouvelle commu UBL, alors là, qui va être une école de docteurs qui va être à cheval sur deux régions. Hein, imaginez, c'est assez monstrueux en termes de kilomètres. Et dans le montage de cette nouvelle commu, on a des statuts. Et justement, on travaille actuellement un petit peu sur les statuts de cette école de docteurs et des collèges de sites et des missions. Alors voilà, c'est pas un décret, mais il y a un travail qui se fait.
Et ce qu'on nous dit souvent, c'est oui, mais avec toutes ces formations qui sont proposées, est-ce que le doctorant a encore le temps de travailler à sa thèse? Alors comment s'articulent donc ces formations qui qui sont nécessaires, hein, et la thèse.
Alors, le temps de travail d'un fonctionnaire, c'est quelque chose comme 1500 heures de travail par an. Les jours de formation qui sont imposés pour nos doctorants contractuels admission, c'est le maximum, c'est 5 jours par an. Enfin, ça fait 30 heures, 30 sur 1500, à mon avis, c'est gérable.
Oui, après, ça dépend de chaque collège, ça dépend de chaque école doctorale. Je crois que ce qui est très important, en tout cas, c'est de rationaliser l'offre de formation complémentaire qui permet justement de guider la poursuite de carrière du doctorant en fonction de son profil, en fonction, et je crois que c'est cette rationalisation. Ça, les écoles doctorales, de toute façon, sont au pilotage de la formation doctorale, bien évidemment, et les collèges sont des espaces de propositions et d'offres de modules pour compléter ou pour nourrir ces parcours de formation. Donc je crois que c'est pas du tout c'est pas open bar, hein, c'est pas open bar, et je crois qu'il faut vraiment que les parcours doctoraux soient rationalisés en fonction des profils.
Alors il y a encore une question.
Marie-Christine Belletto. Donc là, j'interviens, on va dire, en tant que chercheur. J'ai moi-même des doctorants. Je voudrais faire une remarque. Toutes ces formations, je suis pour. Maintenant, ce qu'il faut bien, le point dont il faut que nous soyons tous conscients, c'est que pour que ces programmes marchent, il faut qu'on ait l'adhésion pleine et entière des directeurs de thèse. Pas seulement des directeurs de laboratoire, pas seulement des directeurs 2D, mais des directeurs de thèse. Or, on est tous conscients qu'on a des directeurs de thèse qui cautionnent ce mouvement, enfin, ce changement, cette transition, appelée la mobilité, et d'autres qui font plus que traîner les pieds. Et même quand vous voulez imposer, alors vous disiez 30 heures, mais 60 heures de formation sur l'ensemble du doctorat, qui va nous ramener à des choses très modestes en termes de durée, si le directeur de thèse n'est pas OK, ne marchera pas. Donc il faudrait aussi qu'il y ait quelque chose de fait en direction des HDR.
Derrière.
Il y a quelqu'un, il y a une question. Un
monsieur aussi.
Oui, bonjour, Thierry Ribaud, directeur de l'école doctorale environnement santé de Dijon, Besançon, enfin l'université Bordeaux, l'université Franche-Comté. On n'est pas encore en commune, enfin, on vient d'être voté, on n'a pas encore de collège doctoral. Ça ne serait tardé, je pense. Votre intervention m'a convaincu du bien fondé de la chose. Deux choses. Pour revenir sur l'intervention précédente, on a fait, nous, dans notre école doctorale, une enquête de satisfaction auprès des doctorants et des encadrants sur les formations, alors pour l'insertion professionnelle, mais enfin, ce genre de choses. Les encadrants de thèse sont très satisfaits que l'on oblige les doctorants à suivre ces formations-là. Les doctorants sont très nettement moins satisfaits à être obligés de les suivre. Ça, c'est le résultat de l'enquête. La deuxième chose, c'est malgré l'absence de collège doctoral dans nos universités, nos deux formateurs, les responsables de la formation doctorale dans les deux universités qui sont présents dans cette salle, font un boulot remarquable de mutualisation de ces enseignements complémentaires. Donc même sans collège doctoral, ça peut fonctionner.
Oui, oui, bien sûr. Pour ce qui est de la satisfaction, comme je vous disais, le fait de pouvoir faire évaluer après chaque formation les formations par les doctorants nous a permis, en tout cas à nous, à Toulouse, d'augmenter l'acceptabilité, disons, de ces formations pour les doctorants, ça, sans aucun doute. Mais bien sûr, tout ce qu'on fait, chaque D peut le faire, vraiment. Mais c'est un énorme travail. Donc il y a des aspects qu'on peut vraiment mutualiser et d'autres pas.
C'est les universités qui font
sur
la majorité.
Oui, ben, oui, 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 oui. Si elles le font.
C'est pas le D tout seul.
Bien, alors, avant...
Là,
Tant mieux.
Serge Rossi, c'est collaborateur à Sciences de la Santé, à l'université. C'est à propos des certifications. Est-ce que vous allez plus loin? Il y a une certification business administration, compétences numériques, médiation et journalisme. Vous avez mis ça en place. Est-ce que vous avez pu évaluer la plus-value pour les doctorants qui sont titulaires de cette certification, en particulier la plus-value par rapport à l'employabilité?
La réponse est je n'ai pas la réponse pour l'instant. Donc je tout de suite. La difficulté, c'est d'évaluer à quel point la formation va être l'élément déterminant dans la carrière entre guillemets du docteur. C'est très difficile. Ça a été mentionné déjà tout à l'heure. On retrouve aussi dans ces formations des gens qui ont une appétence pour ça, donc qui peut-être de toute façon auraient montré des qualités, des compétences, qui auraient donc dire ça s'est traduit par quelque chose. Alors je botte en touche, j'en ai bien conscience, parce que je n'ai pas le chiffre, je ne suis pas capable de vous dire ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le formateur qui a fait ça, qui a l'habitude de former des élèves des grandes écoles type management, genre SCP ou des choses comme ça, était d'abord lui extrêmement content de travailler avec des doctorants. C'était pour lui un public phénoménal. Donc ça, c'était une première chose. Et ensuite, il a continué à garder le contact avec une bonne partie de ses doctorants qui poursuivent une carrière dans différentes branches et avec pas mal de succès. Mais je ne peux pas vous donner de choses quantitatives, malheureusement.
Bien, je vous propose d'arrêter. Alors, ce que je voulais dire avant de finir, alors je ne sais pas si c'est très politiquement correct, je vous prie de m'en excuser à l'avance, mais je trouve que cette séance, personnellement, ça m'a fait du bien parce que nous sommes dans une période où on nous met en concurrence. Et là, on a parlé pendant une heure et demie de partage d'expériences, de mise en commun, de mise en réseau, tout ça pour que nous fassions le mieux possible, que nous remplissions le mieux possible nos missions. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. C'était un moment de fraîcheur que j'ai trouvé, pour ma part, particulièrement vivifiant et rassurant. Merci beaucoup.